Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire tirée du livre de Maître Mot qui paraît aux éditions Les Arènes. Maître Mot était le pseudonyme sur Twitter de l'avocat Jean-Yves Moyard du barreau de Lille. Il est décédé en février 2021 et il nous laisse en héritage tout un tas de petites histoires, dont celle-ci, dans laquelle il raconte comment il se prépare avant de plaider devant la cour d'assises. Une épreuve physique, vous verrez. Pour le débrief, je ferai appel à un autre avocat très influent lui aussi sur les réseaux sociaux, Maître Éric Morin, du barreau de Paris. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Halim a commis deux viols aggravés en état de récidive. Il en avait commis deux autres mineurs. Il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. L'avocat général a demandé 21 ans de prison avec une peine de sûreté de 2/3. Et il a surtout demandé une peine de rétention de sûreté, c'est-à-dire l'obligation après l'exécution de la peine d'être enfermé dans un centre médico-judiciaire de sûreté. La cour vous remercie, monsieur l'avocat général. L'audience est suspendue le temps du déjeuner. Elle reprendra à 13h30 par la plaidoirie de la défense. Je vais plaider pour lui. Et ma panique monte. Et je dois la maîtriser. Et par ailleurs, gérer le fait que, malgré l'horreur de ses crimes, j'ai énormément d'affection pour cet homme. Je sais que je vais vivre l'heure exécrable, angoissante, affolante, épuisante, qui précède ce qui est pourtant l'essence de mon métier. Se lever et plaider pour l'homme que j'assiste. Et là, j'ai plutôt envie de vomir. Il va falloir domestiquer ma peur. Mes confrères partie civile m'y aident en venant blaguer. Hé, Mo, bon appétit. Eux, ils vont boire une bonne bière et manger des frites. Ils savent que moi, je vais passer cette heure seul dans la salle à me pressurer le cerveau et à avoir peur, sans avoir la plus petite envie d'ingérer quoi que ce soit, à part de la flotte au robinet des chiottes. Je m'attendais bien sûr à des réquisitions lourdes. Impossible qu'elles ne le soient pas dans cette affaire. En revanche, je n'ai absolument pas vu venir la rétention de sûreté. C'est une mesure rarissime. Je l'affronte pour la première fois de ma vie. Parce que je crois que c'est juste, je veux une peine lourde pour Halim. Mais qui lui laisse l'espoir de finir de devenir un homme véritable. Je ne veux pas de mesure de sûreté. Je veux que sa future sortie ne dépende que de lui, chaque jour. J'en suis à penser qu'il se pendra, sinon. Allez, du calme. D'abord boire un grand coup de flotte et aller fumer une dernière clope. Le père d'Halim m'attend dehors. Pauvre père fracassé, pauvre fou. Il sait qu'il a en partie fabriqué un monstre. La culpabilité le ronge jusqu'à l'âme. Il s'approche de moi. Il pose une main sur mon bras. C'est dégueulasse et irrespectueux, hein, mais je voudrais là maintenant qu'il aille se faire foutre loin, qu'il me foute la paix. J'ai tellement peu besoin de l'entendre à nouveau me dire. C'est moi qui devrais être jugé, maître. C'est moi. Je souffle la fumée. Je regarde le soleil, j'inspire de l'air entre chaque taf, je me vide le cerveau une minute, je suis debout dans le froid, et je ne pense à rien. Il est 12h35, je sursaute, tout devient urgent. Moins d'une heure pour préparer ma plaidoirie. Alors que là, à l'instant, bordel, je sais même plus comment s'appelle mon client. Ah si, si, Halim. Allez, il faut rentrer et gratter maintenant. Il faut que je trouve le déroulé, que je n'oublie rien. Dernier coup d'œil au ciel, dernière aspiration de fumée. je rentre. Je ne peux pas m'épargner deux ou trois lectures. Le témoignage de la mère, le rapport de l'expert psychiatre. En me rappelant qu'il l'avait déjà expertisé dans la première affaire et qu'il avait écarté le risque de récidive. Évidemment, il a été très attaqué à l'audience. Mais il ne s'est pas démonté. Il a encore écarté ce putain de risque de récidive. Il est 12h40. Allez, ferme bien ta gueule maintenant. Et vas-y, on n'a plus le temps. Je note en très gros sur ma première feuille l'essentiel absolu, c'est-à-dire tous les noms, tous les prénoms de toutes les parties, et les grandes dates aussi. Cette première page devra rester toujours visible quand je serai debout, pour que jamais, à aucun moment, je n'hésite sur un prénom. Je connais le dossier par cœur, hein. Mais debout, la peur donne parfois un curieux blocage. Après, je bâtis mon plan, chronologique, en trois parties. Je rédige peu, hein, c'est la nécessaire condition de ma liberté de parole. Mais l'un de mes putains de devoirs sacrés en contrepartie, c'est de ne rien oublier de majeur. Alors je me mets à écrire de façon fébrile, presque hystérique. Une sorte de transe à laquelle je ne connais aucun équivalent. Des mots importants, des bouts de phrases, des idées forces que je veux développer. Je n'ai pas besoin de développer par écrit. Juste mettre là le bon mot pour me rappeler, sur le moment, d'aborder tel point qui me semble crucial. Je note aussi les mots que je ne dois pas dire. Je ne veux pas heurter les deux femmes qui m'écouteront encore une fois raconter leur calvaire. Je veux leur dire au contraire tout le bien que je pense de leur incroyable dignité. Défendre, ce n'est jamais souiller, ce n'est jamais nier leur souffrance. « 13h05.
Putain, je vais être trop court. »«
13h15. Je n'ai rien écrit sur les expertises, sur mes demandes de peine. Je dois terminer maintenant. Et puis, je dois écrire ma fin. Il me reste à peine quelques minutes. Je suis en nage. Mais je sais que j'ai bientôt fini. Grâce à un article trouvé sur Google dans mon portable, j'insère mon couplet sur la rétention de sûreté. C'est bon. » Enfin, à peu près. Enfin, j'espère. J'ai envie de relire. À vrai dire, il aurait fallu que je relise. Mais le public, les familles des parties civiles sont revenues. Brouhaha, panique. Je n'ai pas ma dernière phrase. Celle que je remplace finalement toujours par une autre, mais que j'ai tant besoin de noter. Là, maintenant. J'aurais voulu fumer. Je pourrais pas tant mieux. Ma langue collera moins à mon palais en début de plaidoirie. Je panique de plus belle. Je n'ai ni mon entame, ni ma conclusion.
Oh putain, c'est pas vrai.
13h25. J'attrape ma robe et tout en la reboutonnant, je file vers le couloir pour aller voir Alim dans sa petite cellule. Ça va, Alim ? Je le regarde en me disant... Dieu que tu vaux la peine. Mais Dieu que j'ai la trouille. Je repars dans le couloir. Rituel. Je respire. Je remets bien droit ma bavette. Je me passe les mains sur le visage. Je remonte mes chaussettes. Je suis dans un état de concentration totale. Il faudrait que le palais s'écroule pour que je sorte de ce que j'ai à dire. Je reviens dans la salle. Je suis totalement épuisé et plein d'une énergie farouche et froide, tout à la fois. Je regarde ma première page et je trouve à peu près comment commencer. Et concernant la fin de ma plaidoirie, sur la dernière page, je note « Vous allez terminer la plus belle œuvre que des hommes soient capables d'accomplir. Vous allez tout à l'heure terminer de faire grandir un homme. » Autant qu'on puisse l'être, je suis prêt. Le silence est presque total. Quelques chuchotements. Il est 13h40. La sonnerie retentit.
La cour ?
Tout le monde se lève. Les jurés et les magistrats reviennent chacun à leur place, en silence. Cette fois, je ne peux plus reculer. Cette fois, ça va être à moi. Et je n'ai pas précisément cette putain de première phrase. Mon cerveau fait une ultime plongée tout au fond de mon ventre et trouve. Enfin, peut-être. Le silence est total. Le président regarde à sa droite et à sa gauche si tous les jurés et toutes les parties sont bien là.
L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir.
Silence de plomb. Je le regarde. Il me regarde. Tout le monde me regarde.
Maître Mo, vous avez la parole.
Je voudrais bondir à la barre, attraper mes feuilles comme on s'empare d'une hache. Je voudrais être un grand avocat. Je me lève. Je fais 3 pas vers la barre, tête baissée. Je pose mes feuilles de façon à tout pouvoir les voir en même temps sur le pupitre à ma droite. Et je dis avec une voix toute rocailleuse qui n'a pas servi depuis 1 heure.
Merci, monsieur le président.
Et là, je ne parle pas encore. Je relève la tête. Je les regarde tous, un par un. Mais vraiment, hein, que tous me voient. Allez, c'est maintenant. Je prends ma respiration.
Monsieur le président, mesdames et messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés. C'est un hasard, bien sûr, mais peut-être pas seulement. Le hasard veut que je sois né le même jour exactement que le père d'Alim. Et ça ne peut pas être seulement le hasard, parce que, voyez-vous, c'est bien un fils que je vais défendre maintenant. C'est votre fils. C'est notre fils que je vais vous demander de juger.
On m'a dit que j'ai plaidé 1 heure et 50 minutes. Après 5 heures de délibéré, la cour et le jury l'ont condamné à une peine de 21 années de réclusion criminelle, mais sans aucune mesure de sûreté. Je resterai son avocat jusqu'à sa libération. Je vous raconte une histoire tirée du livre de l'avocat Jean-Yves Moyard, dit Maître Mo, livre qui paraît aux éditions Les Arènes. Dans l'histoire que voici, Maître Mo est l'avocat d'Odile qui a tenté de voler une paire de chaussettes dans un magasin.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Tonton va vous faire une petite mise au point technique avant de vous raconter cette histoire bouleversante. Lorsqu'il était président de la République, Nicolas Sarkozy a imposé ce qu'on appelle des peines planchers. Elles ont été supprimées depuis sous François Hollande. Mais si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez que dans la bouche de certains politiques, il est question d'y revenir. Le principe de la peine planchée, c'est qu'on ne peut pas condamner un récidiviste pour un vol, par exemple, qui est passible de 3 ans de prison, à moins d'un an de prison. Dans l'histoire que je vais vous raconter, Odile, qui est voleuse multirécidiviste, a été condamnée à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Elle a fait appel. Et avec Maître Mo, nous allons donc assister à son procès en appel. Une précision. Maître Mo n'est pas son avocat. Elle n'en a pas, même commis d'office. Il ne fait qu'assister à cette scène. Elle est assise sur un banc avec les 9 autres prévenus qui comparaissent ce jour-là. Prostrée, le regard vide et la bouche ouverte. Elle a un imperméable jaune vif qui est trop grand pour elle, boutonné jusqu'au cou, et un pantalon bleu dégueulasse et trop large qui lui pend de la taille. On se dit d'emblée qu'elle ne devrait pas être ici.
La cour !
La présidente du tribunal n'est pas réputée pour être tendre. Mais quand elle la voit s'avancer, minuscule entre ses 2 gardes, son ciré jaune trop grand boutonné jusqu'en haut, malgré la chaleur moite, on l'entend dire aux 2 autres juges, pas assez bas pour qu'on ne l'entende pas.
Tiens, ce dossier-là, là, tu vois. Il faudrait que notre ministre soit dans la salle. Et on va vite comprendre pourquoi. Odile a tenté de voler une paire de chaussettes dans un grand magasin. 9,50 €. Elle s'est fait prendre par le service de sécurité à la sortie. Ça n'était pas sa première fois, loin de là. Son casier judiciaire comprend 14 mentions, toutes pour vol et tentative de vol. Et donc, pour cette paire de chaussettes cachée dans son ciré trop grand, on l'a envoyée en prison pour 1 an. Oui, le ministre aurait dû être là et assister à cette audience. Et nos brillants députés aussi, qui votent ce genre de choses. Je suis certain qu'ils changeraient d'avis immédiatement si cette fille en ciré jaune trop grand était leur enfant ou leur sœur. Bon, alors, madame, dites-nous pourquoi vous avez fait appel. Je suppose que c'est la peine. Vous la trouvez trop lourde? Bah, c'est surtout que depuis mes 16 ans, j'ai des problèmes. Ah bon? Racontez-nous quel problème, madame. Ben, c'est ma tête. Enfin, je vole depuis mes 16 ans. C'est quand mon père, il est mort. Oui, oui, oui. Mais quel rapport?
Silence.
Hein? Oui, je vois qu'il y a une enquête sociale au dossier. C'est vrai qu'apparemment, vous n'avez pas eu une vie facile. Il vous battait, votre papa, c'est ça? Hein? Vous avez été placé chez votre grand-mère?
Oui. Elle est morte aussi, ma grand-mère. Et après, j'étais dans la rue.
Vous avez quel âge, en fait, aujourd'hui?
J'ai 22 ans. Mais c'est les voix.
Les voix? Mais quelles voix, madame?
C'est depuis la rue. C'est des voix comme quoi mon père, il dit que je vais voler. Ben, donc je vole. Et après, je les entends quand même encore.
On entend clairement la présidente murmurer à ses assesseurs.
Ah oui, oui, elle est handicapée, effectivement. On a ça au dossier.
En fait, je vois là que vous avez effectivement des problèmes psychiatriques, madame. Vous avez été reconnue handicapée par la Cotoreb, c'est ça? À combien de pourcents?
Voilà. La Cotoreb, je sais pas combien. C'est l'éducatrice, elle fait les papiers. Dites, est-ce que vous pouvez faire la fiche pour que j'ai la télé gratuite à la prison?
Non. Non, la fiche, je ne peux pas, madame. Il faut demander à la prison. Hein. Ici, on est là pour décider si vous restez ou pas en prison et combien de temps, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire de vous si vous recommencez à chaque fois, madame? Je vois que c'est loin d'être votre première incarcération. Et...
Oui, 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 j'ai été 3 fois.
Vous êtes suivie, madame? Vous prenez des médicaments, peut-être?
Ben oui, oui, je prends du Subutex.
Ah, du Subutex. Donc vous avez aussi des problèmes avec la drogue. Et de la drogue dure, hein? De l'héroïne?
Oui, je tape l'héroïne, madame.
Depuis longtemps?
Je tape l'héroïne depuis mes 14 ans, madame.
Bon, si personne n'a plus de questions, nous allons réfléchir à ce qu'on va faire de vous. La décision sera prise dans 1 semaine.
Odile garde la bouche ouverte. Les gendarmes lui remettent ses menottes. Et je jurerai qu'un des garçons de l'escorte a envie de chialer. Moi, en tout cas, oui. Je ne ressens pas de pitié, hein, pas de compassion. Juste une incommensurable honte. Celle d'être là et de faire partie d'un système qui permet ça. Les vigiles du magasin pouvaient la laisser partir. Le parquet pouvait ne pas la poursuivre ou au minimum ordonner avant une expertise psychiatrique. Le tribunal pouvait certes appliquer la peine plancher, puisque c'est la loi, mais l'aménager entièrement. N'importe quoi sauf la prison. Il pouvait encore, c'est aussi la loi, refuser de la juger et la déclarer pénalement irresponsable, même sans expertise. L'obliger à se soigner, à accepter de l'aide, à trouver un logement social et pourquoi pas un travail aménagé. Et le législateur pouvait refuser de voter une loi inique dont cette application n'est malheureusement qu'un exemple triste à crever. Odile, Odile, si t'obtiens un jour le droit de lire ceci, et que tu te reconnais dans ce ciré immense et ce joli visage abîmé, ou si un jour tu es véritablement libre, dehors dans un appartement où on t'aidera à gérer avec une dame qui t'apprendra à utiliser ton argent parce que tu gagneras ta vie dans un cadre où on te guidera dans un métier et où deux fois par semaine, puis une fois par mois, puis plus jamais, un médecin fera progressivement taire tes voix et se fermer ta bouche. Odile, si un jour tu réapprends tout simplement à sourire, je voudrais te dire que je t'embrasse tendrement. Maître Mot, qui n'était pas l'avocat d'Odile, n'a jamais su à quelle peine elle avait été condamnée. Je vous raconte aujourd'hui des histoires tirées du livre de l'avocat Jean-Yves Moyard, dit Maître Mot, livre qui paraît aux éditions Les Arènes. Dans l'histoire que voici, Maître Mot est l'avocat d'un instituteur qui est poursuivi pour des attouchements commis sur ses élèves.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Il s'appelle Monsieur Bertrand. C'est un instituteur d'à peu près 50 ans, au visage marqué, sous des cheveux mal peignés. Quand je le rencontre pour la première fois, c'est parce qu'il est convoqué devant un juge d'instruction pour être mis en examen. Il a commis il y a de nombreuses années des attouchements sur plusieurs enfants qui étaient dans ses classes. Alors, monsieur Bertrand, vous me dire la vérité. Vous l'avez effectivement fait, ça ?
Bah oui, oui. Je l'ai fait. Et je suis totalement conscient d'avoir fait mal à ces enfants. Je m'en veux beaucoup.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux d'avoir fait ce qu'il a fait.
De toute façon, je vais aller en prison. Mais attention, je trouve que c'est normal. Il faut qu'il me condamne lourdement, maître. Je le mérite le plus vite possible.
Soyons raisonnables, monsieur. Si vous n'avez pas été envoyé chez le juge d'instruction juste après votre garde à vue, si vous êtes convoqué plus tard, c'est parce que vous ne serez pas placé en détention provisoire, hein.
Ah bon? Et pourquoi?
Ben parce que les faits sont anciens, parce que vous avez reconnu les faits. Et puis parce que personne ne peut imaginer que vous preniez la fuite. Et puis, il y a aussi le fait que certes, il a commis des gestes déplacés sur ses élèves, mais pas directement sur la peau des enfants. À travers les vêtements, pas sur leur peau.
Ça aussi, ça va jouer, hein, monsieur Bertrand. Vous savez, on voit bien pire devant les tribunaux.
Et du coup, dites-vous que le préjudice des enfants est sans doute moindre. Et donc, nous allons ensemble chez le juge. Et effectivement, il ne va pas en prison. Il est placé sous contrôle judiciaire et astreint à un suivi psychologique et psychiatrique, qu'il a de toute façon déjà engagé. Et par ailleurs, il a été suspendu par l'éducation nationale, avec un salaire réduit. Vous serez choqué ou pas là-dessus, hein, de ce maintien d'un salaire. Mais c'est ainsi. Et pour compléter, il a trouvé un autre emploi. Il distribue des journaux gratuits. Et il va voir un psychologue et un psychiatre au moins une fois par semaine. À part ça, il est divorcé, depuis longtemps. Il n'entretient pas du tout de relation avec ses deux filles. Il a un ami, peut-être deux, et pas d'autre famille. Je le verrai 12 fois en l'espace d'un an, parfois pour préparer ensemble une audition ou lire un dossier. Alors nous avons reçu les rapports d'expertise psychologique de vos victimes. Bon, vous devez savoir que la plupart ont peu ou pas de souvenirs précis de vos gestes, hein, et pratiquement pas de séquelles, en tout cas apparentes.
Ça me réconforte beaucoup, ce que vous me dites là.
Mais il nous arrive aussi de se rencontrer juste pour parler, ou plutôt pour qu'il me parle de sa culpabilité, dont je vois bien qu'elle est dévorante et qu'elle l'omnubile totalement. Écoutez-moi bien, monsieur Bertrand. Vous assumez vos actes. Vous pouvez,
Vous pouvez être fier de ça. Vous savez, c'est râle. Putain. Écoutez-moi bien, monsieur Bertrand. Vous assumez vos actes. Vous pouvez être fier de ça. Vous savez, c'est rarement le cas. Hein. Et puis vous vous soignez. Vous vous soignez pour découvrir ce qui a déconné chez vous. Vous allez être jugé. Et après, il y aura une nouvelle vie. Hein. Une nouvelle vie qui s'ouvre pour vous. Après le procès. Mais il a plongé dans une dépression, en vérité. Une dépression dont je mesure les pics et les gouffres au fil de nos entretiens. Il me raconte son passé douloureux. Lui aussi a été agressé sexuellement dans son enfance. Et petit, son père ne lui inspirait que crainte et froideur, alors que sa mère était la prunelle de ses yeux. Son décès, du coup, l'a laissé comme un nourrisson sans lait. Je vois que vous n'êtes pas bien, monsieur Bertrand. Vous n'allez pas tenter à vos jours, n'est-ce pas? Vous avez des idées de suicide?
Oh non, ça quand même pas. De toute façon, je dois être au procès. Je veux pas priver les enfants de ça. Je veux leur demander pardon et à leur famille aussi. Pas pour m'excuser, hein, mais pour qu'ils sachent que tout est ma faute. Et pas de la leur.
Au cabinet, comme il vient souvent, il arrive qu'on se moque gentiment de lui.
Hé, maître Beau,
le sol vous a appelé. Il veut que vous le rappeliez. Mes collaboratrices le surnomment le sol, parce qu'il pleure beaucoup. Il pleure au téléphone, il pleure dans mon cabinet, il pleure aussi chez le juge, qui doit parfois le rassurer un peu. Un jour, nous nous retrouverons une dernière fois chez le juge pour une sorte de récapitulatif.
Ah, maître, nous venons de recevoir le rapport de l'enquêtrice de personnalité. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous le notifier, donc si vous le souhaitez, pour vous laisser le temps d'en prendre connaissance avec votre client, comme c'est la règle, je peux vous reconvoquer plus tard.
Non, monsieur le juge, non. Ça ne sera pas nécessaire. Laissez-nous seulement quelques minutes, hein, pour que monsieur Bertrand et moi puissions le lire ensemble au calme.
Très bien, je vous laisse quelques minutes, pas de problème. Et à l'issue, évidemment, j'aurai quelques questions à poser à monsieur Bertrand.
Nous le lisons dans le couloir, et au détour de 4 lignes. Dites-moi, il y a un problème là, monsieur Bertrand? L'enquêtrice a rencontré vos filles. Et lui ont dit qu'elles avaient été elles-mêmes victimes d'attouchements de votre part. Et bien plus grave, de viol. Vous saviez qu'elles avaient porté plainte contre vous?
Mais non! Tout ça est faux! J'ai jamais fait ça à mes filles!
C'est ce qu'il répète quelques instants plus tard devant le magistrat. Et qu'il me répète, moi, pendant plus de 2 heures. Totalement anéanti. Monsieur Bertrand est mis en examen par un autre juge dans cette affaire qui concerne ses filles. Dans la foulée, il revient lire à mon cabinet les déclarations de ses filles. À 3 reprises, après l'avoir entendu pleurer comme un gosse, je dois aller le réconforter.
Je comprends pas, maître. Je souffre beaucoup de leurs accusations. Je vous jure, maître, je leur ai rien fait. Vous me croyez, n'est-ce pas?
Mais oui, je vous crois. Vous n'avez pas menti dans le premier dossier, d'accord? Puis je commence à vous connaître un peu. Dans l'état psychique dans lequel vous êtes, je crois pas que vous êtes en état de mentir. Et encore moins à propos de vos filles. Vous m'avez dit tant de fois à quel point vous les aimiez.
Oui, mais quand même, elles m'accusent.
Eh bien, va y avoir un combat à mener, hein? On fera ce qu'il faut ensemble. D'accord? Demain, nous sommes convoqués pour la première fois par le juge d'instruction dans cette affaire qui concerne ses filles. Mais je reçois une lettre de lui, dans une enveloppe qui contient par ailleurs 2 autres enveloppes cachetées, destinées aux 2 juges d'instruction en charge de ces 2 dossiers. Maître, à l'instant où vous lirez ces quelques lignes, je ne serai plus de ce monde. je tenais à vous réaffirmer que je vous ai toujours dit la vérité, tant au sujet de ma première affaire qu'au sujet de mes filles, Nathalie et Stéphanie, que j'ai toujours respectées et envers lesquelles je n'ai jamais eu de pensée ni de geste malsain. Je peux plus supporter de me voir dans une glace et mon avenir n'est plus rien. C'est en pleine connaissance de cause que j'accomplis cet acte définitif. Je vous remercie de toute l'aide que vous m'avez apportée.
Je l'appelle immédiatement sur son portable, qui sonne dans le vide. Je lui laisse un message. Monsieur Bertrand, c'est Maître Mot à l'appareil. J'espère que vous n'avez pas fait de conneries. Rappelez-moi.
J'appelle ensuite le commissariat de la ville où il habite.
Nous avons déjà été prévenus, maître, par un de ses amis à qui il a envoyé le même genre de lettre. Nous allons aller sur place, d'accord ?
Quand je raccroche, j'ai dans le dos cette sorte de tassement étrange qu'on ressent quand un fait violent, dur, immensément triste survient près de vous. J'en parle tout de suite à ma collaboratrice et amie.
Ha ! Eh ben voilà quelqu'un qui te paiera pas, Jean-Yves.
Bah, t'es incroyable, toi, enfin. N'empêche que je continue de penser que il faudrait qu'on trouve une autre manière, une autre voie pour traiter ces dossiers. Pourquoi ajouter du malheur au malheur ? Une autre voie ? Non, mais tu sais ce que je pense, les hommes qui s'en prennent aux enfants ? Tu t'apitoies sur lui, toi. Mais franchement, y a rien de barbare dans ce que la justice lui a fait.
Ouais. Ouais, t'as pas tort.
La compression de mes vertèbres a persisté. Je rappelle le commissariat en fin d'après-midi.
Donc on est allé sur place, maître. Et on a forcé l'entrée de son appartement. À l'intérieur, tout était parfaitement propre et rangé. Sa voiture était garée devant, mais lui, il n'était pas là. Hein.
Je préviens le magistrat instructeur. Et j'espère que demain matin, M. Bertrand viendra sonner honteux à la porte de mon cabinet. Mais le lendemain, il ne vient pas. Et il ne m'appelle pas non plus. J'en suis là. Je ne sais même pas s'il est mort ou simplement enterré avec ses fantômes dans un abri quelconque. Probablement en larmes. Il est peut-être coupable ou innocent d'une totale lâcheté ou d'un certain courage. Mais quoi qu'il en soit, on changera d'avis tous selon qu'on le découvre vivant ou mort. Pour moi, c'est un incroyable gâchis. Il était gentil, ce bonhomme. Gentil et malheureux. Je pense à ses filles qui, quoi qu'il arrive, et quelle qu'ait été la réalité, vont connaître une autre souffrance aussi. Effroyable. Oui, monsieur Bertrand. Oui, il existait un avenir pour vous. Oui. Vous étiez tous sauf irrécupérables. Vous étiez tous sauf foutus. Vous n'aviez pas perdu la qualité d'homme. Et vous deviez vivre. J'espère que vous êtes vivant. À 21h30 le même jour, monsieur Bertrand est retrouvé par la police, inconscient, dans un hôtel d'une ville voisine. Il a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Maître Mot ne nous livre pas la fin de cette histoire. Et peu importe, au fond. Car ça n'est pas vraiment de M. Bertrand qu'il nous a parlé. Mais de lui, de Maître Mot, et de la façon dont un avocat peut s'impliquer totalement, personnellement, affectivement, intimement, dans une affaire aux côtés de son client.
In the dawning, when the sky is low, on my shoulder, everywhere I go, your
Maître Éric Morin, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous faites partie donc des avocats qui étaient amis avec Jean-Yves Moyard, alias Maître Mot, et qui ont souhaité donc que ce livre, qui s'appelle donc le livre de Maître Mot, dont j'ai tiré les histoires d'aujourd'hui, soit republié. Pourquoi ?
D'abord parce que c'était un vrai souhait. Lorsqu'il est décédé le 20 février 2021, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes nous ont dit « mais on ne trouve pas ce livre, on aimerait le lire, on en a entendu parler, on aimerait le lire ». Et avec Laurent Beccaria, le directeur des Arènes, on s'est dit « bah voilà, on va pouvoir le rééditer, rajouter quelques inédits ». C'est ce que l'on a voulu faire. Aujourd'hui, c'est un vrai succès. Il a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Je crois que ça le ferait sourire, mais je crois qu'il en serait aussi très, très content. Il était fier de ce livre. C'est le seul livre qu'il a publié. Un blog, c'est pas un livre, et un objet livre comme ça, il en était fier et il se disait bah « oui, moi aussi j'ai publié un livre ».
Quand il est mort, vous avez écrit un tweet que je voudrais lire à l'antenne. « Il y a les élégants, les talentueux, les généreux, les fêtards, les courageux, les fêlés laissant passer la lumière, mais je n'ai jamais connu aucun autre avocat qui soit tout cela à la fois. Tu rendais les gens bons parce que tu avais l'humanité gravée au cœur. Adieu, l'ami. » Alors là-dedans, moi, il y a une idée qui m'a intéressé parce que Maître Mot, dans ses interventions sur Twitter et sur son blog, il se félicitait souvent de boire des coupettes. Et c'est cette filure qui m'a intéressé parce que c'était un avocat qui picolait un peu, on va dire les choses telles que c'était. Est-ce que c'est ça qui l'a emmené vers la tombe ? C'est un cancer.
Oui, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'était devenu un petit peu ça. Sa formule, il adorait le champagne,
ouais.
Voilà, ce qui va bien évidemment bien aider l'image des avocats.
Non mais c'est intéressant.
Mais il adorait le champagne, et donc quand la semaine était finie, lorsqu'un procès était terminé, il mettait un petit hashtag sur Twitter, allez coupette, et il y en avait beaucoup à son cabinet, il avait un frigidaire dans la cuisine de son cabinet, puis il y avait toujours des bouteilles de champagne au frais, c'était comme ça qu'il accueillait aussi... ses amis de passage, lorsque on venait plaider à Lille. Fêlé qui laisse passer la lumière. Toutes les personnes qui l'ont rencontré...
disaient qu'il y avait une fêlure.
Oui, il y avait à la fois une fêlure, mais aussi une chaleur. C'était quelqu'un qui...
une hypersensibilité.
Qui avait une grande sensibilité, mais aussi qui avait une grande disponibilité. Vous savez, on est toujours dérangé par... et moi le premier, par nos téléphones et un tas d'autres choses. Et lui, lorsqu'il était là, il était pleinement là. Il vous parlait vraiment. Il n'était pas juste d'une oreille discrète. Il avait des grandes oreilles, d'ailleurs. On s'en moquait souvent. Mais il écoutait véritablement les gens. Je crois que... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « j'aurais bien aimé être son client ». Alors, le client de Jean-Yves, c'est forcément avoir quand même un petit problème pénal. Soit en étant auteur, soit en étant victime. Mais je suis intimement persuadé que lorsqu'il recevait pour la première fois un client... Il l'enrobait de sa grande stature et il lui disait finalement, sans avoir à lui dire, je vais vous protéger et je vais vous défendre.
Ma question en vérité derrière était la suivante. Est-ce que chez les avocats pénalistes, donc criminalistes, il n'y a pas plus de fêlés, plus d'alcooliques, plus de malpensants que la moyenne des gens ? Est-ce qu'au fond, ce métier n'attire pas les gens un peu fêlés comme celui de rockeur ou comme celui de journaliste racontant des affaires criminelles?
C'est pas facile parfois des heures et des heures durant dans le secret de nos cabinets d'écouter non pas une histoire comme ça théorique, une réalité violente. Lorsqu'on est avocat pénaliste, c'est forcément violent. Et de rentrer chez soi le soir et de penser que, sous prétexte qu'on va s'essuyer les pieds sur le paillasson, on va laisser toutes ces histoires à l'extérieur. Et quand c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ça pèse. Mmh. Oui, ça pèse. C'est évident que ça pèse. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, et lui s'en est quand même très très bien sorti, parce que pendant 30 ans, il a fait ce métier au top,
ouais.
Au top niveau. Mais ça use aussi. Et on a vu encore récemment des avocats, notamment un auquel je pense, mourir juste avant une audience. C'était à Aix-en-Provence. Ce sont des métiers qui sont particulièrement usants.
Mais ma question va même au-delà. C'est, bon, d'accord, le métier affecte,
comme le métier de policier, de gendarme, de médecin urgentiste. Enfin, il y a tout un tas de métiers qui sont confrontés comme ça à quelque chose d'assez violent ou une part assez violente de notre société. Ma question est presque celle-là. Est-ce que il faut pas être un peu fêlé pour devenir pédaniste? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ce métier qui est dur, qui consiste parfois à défendre des gens pas faciles à défendre, n'attire pas les fêlés?
Je sais pas, c'est toujours l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le métier qui nous rend un peu plus fêlés ou est-ce qu'il fallait avoir des prédispositions de fêlés pour embrasser ce métier? D'abord, ce métier change beaucoup parce que il n'est plus le même que lorsque on n'était que 1000 ou 2000 avocats à Paris, maintenant qu'on est plusieurs dizaines de milliers.
Beaucoup sont des avocats d'affaires.
Oui, mais pas que.
Ils sont moins fêlés.
Courez les couloirs des tribunaux, ils sont nombreux, ça attire toujours, toujours, alors que c'est un métier, contrairement à ce que l'on peut imaginer, mais regardez les chiffres, qui s'est énormément paupérisé, et qu'aujourd'hui, il y a un nombre considérable d'avocats qui
sont quasiment sous le seuil de pauvreté.
Qui sont sous le seuil de pauvreté, ou qui gagnent péniblement le SMIC, alors qu'ils sont une profession libérale, et qu'on a toujours l'image de l'avocat dans les séries américaines, voire même françaises. Oui, je crois qu'il faut... Il faut surtout être fêlé pour continuer à le faire. Voilà. Et continuer encore.
Vous êtes fêlé ?
Sans nul doute. Sans nul doute. Je ne suis pas certain que ça soit le ver lui-même qui puisse se rendre compte qu'il est fêlé, mais d'autres peuvent le voir.
Dupond-Moretti, il est fêlé ? Bah oui. Il est très fêlé quand même. Hein.
Est-ce qu'il a été fêlé d'accepter ce poste de garde des Sceaux ? Je ne sais pas. C'est peut-être le fêlé extrême, ça, effectivement, d'avoir accepté ce poste.
Mais il était fêlé. Enfin, en tant qu'avocat, il était fêlé. Il fumait trop, il mangeait du confit de canard, il buvait. Il mettait sa vie en danger pour ce métier, quoi.
On devient parfois un peu des ogres de soi-même.
Merci beaucoup.
Merci à vous,
Éric Morin, d'avoir accepté de débriefer ces histoires de Maître Mot tirées du livre de Maître Mot aux éditions Les Arènes.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.